Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cette émission est réalisée en partenariat avec le VPN CyberGhost. Vous le savez, Conflit aborde régulièrement les thèmes de la guerre économique et de la cybersécurité. Disposer d'une protection cyber contre les attaques malveillantes est une nécessité, et cela passe notamment par un bon VPN. Un VPN évite d'être suivi à la trace en modifiant les adresses IP. Il assure ainsi une sécurité lorsque l'on se connecte dans les lieux publics, comme les aéroports et les gares. Sinon, il y a un risque de piratage et de hackage. Avec un VPN, on navigue de façon anonyme, en toute confidentialité, sans laisser nos données et sans se les faire voler. CyberGhost est l'un des meilleurs VPN du marché, recommandé par les médias de la tech, notamment les numériques et Presse Citron. C'est pourquoi Conflit vous propose cette offre promotionnelle qui vous permet de bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Et vous avez 45 jours pour essayer et être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Cette offre promotionnelle est à retrouver sur le lien en description de ce podcast ainsi qu'à l'adresse cyberghostvpn.com/conflit. Un VPN permet aussi de se connecter dans des pays étrangers, ce qui est très pratique pour accéder à certains sites qui sont interdits en dehors de leur pays. Je vous invite donc à aller voir cette offre. Merci pour votre patience et votre soutien.
24 février 2022. L'armée russe franchit la frontière ukrainienne. C'est le début d'une guerre que certains pensaient courte, comme souvent, et qui dure depuis bientôt un an. Un an après le début de ces affrontements entre la Russie et entre l'Ukraine, affrontements qui bien évidemment dépassent largement le cadre russe stricto sensu, nous allons tenter de faire un premier bilan de cette guerre, de ce que l'on peut dégager, de ce qu'elle peut nous apprendre. Un premier bilan avec mon invité, Olivier Kempf. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Nos auditeurs peuvent vous retrouver régulièrement dans les colonnes de Conflit. Vous aviez notamment dirigé le numéro consacré à la cybersécurité. Et vous êtes militaire, général, docteur en sciences politiques, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie, auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment au sujet de cybersécurité, et vous venez de publier aux éditions Economica « Guerre d'Ukraine ». Alors un ouvrage un petit peu original dans la forme, et on va y revenir notamment quant à la méthode, puisque dès le début de la guerre, enfin dès le début, quelques jours après le début des affrontements, vous avez publié chaque semaine sur votre fil Twitter « EGA », donc auxquels nos auditeurs peuvent vous suivre, vous avez publié une synthèse hebdomadaire de la guerre, et dans cet ouvrage, vous publiez l'ensemble de ces synthèses hebdomadaires avec, à la fin, une conclusion qui essaye de dégager les principales lignes de force et les principaux éléments que l'on peut apprendre de cette guerre. Donc un ouvrage intéressant à deux titres pour le lecteur, d'abord parce que ça permet de retrouver toute la chronologie de la guerre du mois de mars jusqu'au moment où le livre a été imprimé. Vous continuez d'ailleurs à faire le bilan hebdomadaire sur votre fil Twitter. Donc d'un côté, on a la guerre semaine par semaine qui permet de se repositionner à l'époque. Évidemment, quand vous faites votre bilan hebdomadaire, vous ne savez pas ce qui va se passer après. Donc ça, c'est intéressant. Et d'avoir aussi une première analyse quasiment un an après le début de la guerre. Première question que je vais vous poser, Olivier Kempf, c'est celui de la méthode. Pourquoi avoir choisi l'analyse hebdomadaire et non pas une analyse quotidienne ou peut-être mensuelle, comme ont pu faire certains? En quoi le positionnement temporel hebdomadaire est intéressant? Première question. Et deuxième question, comment faire pour avoir accès à des informations fiables et donc pouvoir faire une analyse qui soit également fiable?
Alors, gardez la deuxième question et puis vous me la reposez, parce que déjà la première, il y a plein de choses à dire. Pourquoi, par hasard en fait, pourquoi? Parce que un dimanche, je crois que c'est le 6 mars, j'ai déjà peut-être publié un truc avant, mais le 6 mars, j'entends plein de choses et ça m'agace, et comme souvent quand quand j'écris, ça fait maintenant 20 ans que finalement c'est un peu comme ça. J'essaie d'écrire ce que moi je comprends et qui diffère finalement de ce que j'entends. À la lumière des informations dont je dispose, et donc voilà. Alors bien évidemment vous mentionnez mon passé militaire, il est sûr que 35 ou 40 ans de pratique, de métier, d'études, parce que les militaires sont quand même très très formés, d'expérience, soit sur le terrain, soit dans les postes d'état-major, donc de direction, fait que bon, il y a une expérience qui permet finalement d'aller peut-être un peu au-delà du café du commerce. Enfin, j'en ai la prétention. Une fois qu'on a dit ça, ce tweet, enfin cette enfilade, je parle pas de fil, je parle d'enfilade pour reprendre le mot de nos amis québécois qui savent bien traduire les mots anglais. Donc cette enfilade de tweet a un succès incroyable. C'est-à-dire que c'est énormément vu, et puis je gagne quelque chose comme 10 ou 12 000 abonnés en 3 jours. Un truc... bon, voilà. Donc, le tweet a finalement rencontré un public, et ça, c'est intéressant, parce que cela montrait que, d'abord, il y avait une grande attente du public pour comprendre cette guerre. Ça, on l'a vu tout au long de la couverture médiatique, mais aussi une attente d'une lecture peut-être un peu dépassionnée. Et bah finalement, le succès oblige. Et donc, c'est pour ça que je reviens au hasard. Face à cette demande, j'en ai réécrit un autre la semaine d'après, et lui aussi a eu du succès. Et chemin faisant, j'en ai fait un par semaine. Alors, continuons sur ce rythme hebdomadaire. Pourquoi le rythme hebdomadaire? D'abord parce que j'étais pas persuadé qu'il se passe tous les jours quelque chose d'intéressant à dire. Je suis assez admiratif de ceux qui tous les jours continuent à publier, surtout en ce moment où on a une guerre de position, il se passe pas grand chose, c'est un peu casse-pied. Mensuel, c'est tellement lointain que finalement, et donc le rythme hebdomadaire convient finalement à tout le monde, ça permet d'avoir un peu de recul, de pouvoir faire surtout à la fois, et bon, alors ça s'est élaboré au fur et à mesure, mais maintenant la forme des billets est finalement bien construite, avec une partie de description des événements quand il y a des événements. Il y en a toujours un peu, une partie analyse militaire, où là, eh bien, mon passé militaire essaye de dire pourquoi est-ce que les uns et les autres font ceci, où en est le rapport de force, où en est le rapport de feu, quid des effectifs, bon, des choses comme ça. Et puis, je termine par une analyse politique ou géopolitique, où là, j'essaie de regarder l'autre face de la guerre, parce que la guerre est un objet dual, à la fois militaire et politique, et on ne peut l'analyser que si on tient les deux rênes, le rêne militaire et le rêne politique. Donc ça s'est élaboré, cette structure s'est élaborée au fil du temps, et vous avez raison de dire que chaque semaine, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, c'est un essai aussi, et c'est pour ça que reprendre ces billets et les relire d'un trait est intéressant, parce que c'est un essai d'histoire immédiate. Quand j'ai publié le livre là fin novembre début décembre, des gens me disaient mais pourquoi vous publiez ça maintenant puisque la guerre n'est pas terminée. Je dis peut-être qu'elle n'est pas terminée, mais d'abord ça va être une guerre longue, alors on va y revenir, et donc de toute façon elle sera pas terminée dans 3 ans, donc finalement on peut jamais le publier. Mais surtout c'est un essai d'histoire immédiate au sens où Jean-Baptiste, je sais que vous êtes historien, vous vous souvenez de ce bourgeois de Paris qui publiait des choses en 1450, et c'est passionnant parce que voilà un témoignage au fur et à mesure, et c'est un formidable document d'histoire, sans avoir la prétention d'être ce formidable. C'était une analyse au fur et à mesure, sachant qu'on pouvait être à la fois surpris, trompé, par l'événement qui allait arriver la semaine d'après. Et donc, ça incite forcément à la prudence. Alors, bien évidemment, je me suis ici ou là trompé Non, pas dans mes prévisions, parce que je me suis rarement livré à la prévision. Mais quand je formulais des hypothèses, voilà, je veux dire, un militaire, ça formule des hypothèses. En état-major, quand on prépare une opération ou des décisions pour le général, on lui présente plusieurs hypothèses, plusieurs modes d'action. Et finalement, c'est ce que j'ai fait souvent. Voilà, je veux dire, les Ukrainiens, ils peuvent faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Donc sur les quatre hypothèses, il y a toutes les chances qu'il y en ait une qui marche. Et souvent, c'est ce qui s'est passé. Parfois, ça s'est pas passé. Et puis voilà, parce que la guerre est toujours un objet un peu bizarre, non prévisible et intéressant aussi pour cela. Donc essai d'histoire immédiate, rythme hebdomadaire, parce que plus j'aurais pas eu le temps, et puis je suis pas persuadé que ça soit très intéressant de faire plus qu'un rythme hebdomadaire. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me dire, il se passe finalement tellement peu de choses, et c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier billet, est-ce que c'est réellement intéressant de continuer toutes les semaines? Peut-être que je vais espacer mes billets, parce que peut-être qu'il y a rien d'intéressant à dire, et parler pour ne rien dire n'est pas la meilleure des choses.
Alors, nous avons abordé la question du temps. Ma deuxième question, c'est celle de la méthode, parce que dans cette guerre en Ukraine, on a vu beaucoup de personnes parler de manière publique. Et d'ailleurs, Twitter est un outil intéressant. On a beaucoup parlé avec Elon Musk, mais il y a d'autres éléments. Je me souviens, j'étais enfant à l'époque de la première guerre du Golfe en 1991. Peut-être que vous étiez vous-même directement là-bas. On avait tous les matins un compte-rendu à la télévision des événements de la nuit avec à TF1 des chars qui étaient avancés. Ça ressemblait à un grand plateau de jouets, des chars qui étaient avancés pour nous montrer l'évolution du terrain. En tout cas, l'information était limitée. Enfin, la source d'information était limitée. Il y avait les journaux et il y avait les télévisions. Aujourd'hui, on a l'ensemble des réseaux sociaux. Ça a été une nouveauté. C'est d'ailleurs un des aspects nouveau de cette guerre en Ukraine, beaucoup d'informations qui sont données, certaines sont délibérément fausses, et d'autres sont fausses, mais involontairement, c'est-à-dire que des gens peuvent transmettre des fausses informations qu'ils pensent justes. Et donc, comment faire pour distinguer le vrai du faux? À quelle source aller? Il y a des sources françaises, il y a des sources russes. Beaucoup ont présenté cette guerre en Ukraine comme étant la victoire de l'OSINT, cette recherche en sources ouvertes. Comment faites-vous, vous, Olivier Kempf, quelle est votre méthode ou votre recette pour aller chercher des informations le plus fiables possible?
Comment je fais? Je lis beaucoup. Vous parlez de Twitter. Je fais énormément de choses sur Twitter. Hein. C'est principalement via Twitter que je cherche. Cela étant, Twitter est aussi un moyen de se rediriger vers des articles. C'est-à-dire que Twitter est un média aussi au sens premier du mot média. C'est-à-dire que il peut donner des liens vers des articles ou des blogs ou des journaux ou des sources plus élaborées que le simple tweet en 280 signes. Mais voilà, je veux dire, Twitter pour moi, et c'est pour ça que j'utilise depuis finalement très très longtemps, c'est un fil de presse personnalisé. C'est aussi un réseau social, bien sûr, mais c'est d'abord un fil de presse personnalisé. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'utilise d'abord. Vous parlez des réseaux sociaux. Je recommence, parce qu'il y a eu du son, et donc vous allez... vous parlez des réseaux sociaux. Alors, oui, il y a une dimension médiatique de cette guerre que l'on a rarement vue. Vous mentionnez la guerre du Golfe à l'époque. On parlait de l'effet CNN, on a découvert CNN à ce moment-là avec la valise satellite. Et puis on a suivi ça au moment des guerres de l'ex-Yougoslavie. Il y a quelque chose, tout le monde pense que les réseaux sociaux sont extrêmement importants, vous avez raison. J'observe aussi la multiplication des chaînes d'information. Je crois que c'est un facteur médiatique extrêmement important. Maintenant, vous avez par exemple en France 4 ou 5 chaînes permanentes, sans même parler des chaînes parlementaires. Donc vous avez des chaînes d'information qui sont obligées de produire du contenu et soi-disant d'information en permanence et qui sont donc obligées de faire du tam-tam. Et puis vous avez tous les autres médias, qu'il s'agisse des télés normales ou des journaux papier ou des radios, qui deviennent des médias multiplateformes. Donc des papiers vont avoir des sites internet bien sûr, des télés, etc. Ce qui fait que vous avez une augmentation des sources d'information, du traitement médiatique, du bruit médiatique qui n'est pas dû que aux réseaux sociaux. Voilà. Et donc ce tumulte médiatique est évident. Il a peut-être été plus sensible cette fois-ci que pour une guerre récente qui était ce qui se passait en Syrie. Il y a un peu moins de 10 ans, je suivais pareillement les affaires de Syrie de 2012 à 2016, 2017, parce qu'après ça c'est bon, il y a eu l'État islamique et l'affaire s'est globalement terminée. Il y avait de l'intérêt, mais il y avait moins d'intérêt que cette fois-ci. Et donc le tumulte médiatique que vous ressentez, Jean-Baptiste, à l'occasion de la guerre d'Ukraine, est dû aussi au fait que c'est une guerre européenne et que le public français, notamment le public européen d'une façon générale, et le public occidental d'une façon encore plus générale, est plus investi, est plus intéressé et plus attentif à ce qui se passe là que à ce qui peut se passer en Syrie ou ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, 25 ans en ex-Yougoslavie. Première chose. Alors, pour répondre à votre question, donc des sources, oui, par Twitter, eh bien vous allez lire d'abord des blogueurs un peu spécialisés, à la fois du côté russe, du côté pro-ukrainien. Je dis pro-ukrainien parce que à chaque fois je ne lis ni le russe ni l'ukrainien, donc je ne lis jamais des sources en langue directe. Cela étant, il y a tout un tas de sites qui font de la traduction quasi immédiate de ce que produisent les uns et les autres, et puis aussi bien les Russes que les Ukrainiens ont compris qu'il fallait parler anglais pour être écouté. Donc finalement, on réussit à s'en sortir. Donc je lis des sources pro-russes et pro-ukrainiennes, je lis des sources américaines, je regarde un peu tout ça, je fais ma tambouille. Alors, voilà, ma petite cuisine, voilà, excusez-moi de ce mot familier. Comment ça se passe? Finalement, je note rien au fur et à mesure de la semaine, mais je suis tout au long de la semaine, ça rumine, ça digère, ça, bon, voilà. Et le dimanche, quand je me mets à écrire, j'écris finalement ce qui ressort de cette rumination. Et puis alors, bien évidemment, je vais aller préciser tel ou tel endroit. Mais tout ce qui est analyse militaire et analyse politique, bien évidemment, est le résultat de cette rumination. L'analyse des faits, ben là, je me reporte à un certain nombre de sites, et notamment de sites cartographiques, qui montrent finalement l'évolution des lignes. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier qui me distingue peut-être d'autres analystes qui ont d'autres méthodes. Certains vont par exemple regarder les unités militaires et puis de part et d'autre et puis analyser tiens ben il y a telle unité ici, telle unité là et donc voici ce qui est en train de se passer. D'autres vont avoir des sources directement par des chaînes Telegram avec un côté, avec un camp, disons les choses simplement, et donc ils vont avoir des tonnes d'informations directes, qu'ils vont essayer de retraiter, de passer au filtre de leur esprit critique, mais voilà. Moi, je n'ai pas de source directement, enfin officielle, enfin qui se présente voilà, comme étant soit ukrainien, soit russe, et qui viendrait me dire par derrière des choses que les autres ne sauraient pas. Ça, je me refuse à ça, parce que c'est le meilleur moyen de se faire instrumentaliser. Et voilà, finalement, le grand sujet que vous posez aussi. Comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Je pense qu'il faut garder le sang-froid, il faut pas s'étourdir par le succès médiatique. Il faut se méfier d'un biais qui n'est pas un biais à proprement cognitif, mais qui est que nous sommes en Europe et l'ensemble des médias européens sont globalement aux côtés des Ukrainiens, présentés comme des victimes, sachant que vous avez un certain nombre de gens qui, au contraire, sont très pro-russes. Juste, bon, voilà. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait la barre des choses pour ne pas céder aux propagandes des uns comme aux propagandes des autres? Voilà, parce que les deux mènent ce que nous appelons couramment la propagande, mais finalement qui sont une des dimensions importantes de cette guerre, des stratégies informationnelles qui sont prégnantes et dont il faut se dégager. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'estime que le terrain ne ment pas et que donc l'évolution des lignes de front permet d'avoir finalement une observation objective. Ah, ok, si les uns ont poussé à tel endroit et ont gagné tel truc, ça veut dire ceci en termes militaires. Si les autres finalement ont réagi et puis ont percé à tel endroit, ça veut dire cela. Si ceux-ci se sont retirés de tel endroit, cela peut signifier ceci ou cela, et là je forme trois hypothèses. Vous voyez, et donc c'est pour ça que ma méthode à moi pour éviter les intoxications et pour éviter ces biais ces biais partisans, disons le mot, consiste à regarder les lignes sur le terrain et finalement à ne parler qu'à partir de ces lignes du terrain. Alors du coup, comme depuis trois ou quatre mois, le terrain ça bouge pas beaucoup, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a quand même encore des choses à dire? Bah oui, heureusement, enfin j'essaie de le montrer, même si en ce moment, voilà, le rythme des opérations se ralentit à cause de l'hiver, mais aussi à cause de facteurs plus structurels, et donc peut-être que là, pour le coup, le rythme hebdomadaire, pour revenir à votre première question, ne va plus être nécessaire.
Alors merci pour ces éléments sur la méthode, mais vous n'avez pas répondu à une autre partie de la question qui concernait l'OSINT. Justement, en quoi c'est important et comment est-ce qu'on peut la pratiquer dans cette guerre?
Alors c'est une bonne question. Donc OSINT, c'est Open Source Information Intelligence. Donc en bon français, on devrait dire ROSO, renseignement d'origine source ouverte, ROSO, R-O-S-O. Alors, le ROSO est finalement quelque chose qui est pratiqué par les services de renseignement. Mais, avec du ROSO, bien évidemment, vous avez la méthode, vous avez des accès, et finalement, j'imagine que les praticiens du renseignement utilisent de près ou de loin des méthodes similaires, se branchent sur un certain nombre de blogs, etc. Et puis après, avec en plus les services d'enseignement, ils ont des moyens spécialisés. Donc eux, ils peuvent avoir des spécialistes en russe qui vont aller se mettre sur les réseaux équivalents Facebook des mères de soldats, soit russes, soit ukrainiens, pour avoir des choses comme ça que je n'ai pas. Je veux dire, un vrai service de ROSO, il est multidimensionnel, il a des moyens, une permanence que un individu tout seul comme moi ou comme les pères qui se produisent sur Twitter n'ont pas. Ici, il faut préciser que, alors on pose souvent les questions, non, je n'ai accès, malgré mon passé, malgré les gens que je peux connaître, à aucun renseignement particulier, ce qu'on appelle du renseignement couvert, enfin des services de renseignement, pour une bonne et simple raison, que si jamais un service de renseignement me donnait une information, je ne pourrais pas en faire état. Et donc, et quelque part, ça me briderait, parce que bah, je serais tenu par mon métier, par mon ancien métier, et donc l'éthique associée, je n'aurais pas le droit d'en faire état. Donc, justement, je paradoxalement, je fais très attention à ne pas discuter avec les gens que je pourrais connaître. Donc, oui, du renseignement sur source ouverte, c'est une matière évidente, et y compris pour les services de renseignement spécialisés. Cela étant, un renseignement est finalement un objet qui est très construit et qui est construit à partir de plusieurs sources et ces sources, elles peuvent être soit en source ouverte, celle qu'on vient de décrire, ça peut être du renseignement humain, ça peut être aussi du renseignement technique, que ça soit du renseignement d'origine cyber, du renseignement d'origine électromagnétique, du renseignement d'imagerie satellite, enfin tout un tas de choses qui font que à partir d'un certain nombre de bribes d'informations, ou d'informations pures, vous les croisez, vous les confirmez, vous allez construire du renseignement. Le renseignement est quelque chose qui se construit. Et donc, si très partiellement, je peux utiliser des techniques de roseau, je ne fais pas à proprement parler du roseau, et ceux qui font du roseau, donc de l'OSINT, ce sont les services spécialisés qui ont une méthode, des moyens, une permanence qu'un individu dans son coin ne peut pas avoir.
Merci Olivier Kempf pour ces précisions en termes de méthode, et c'est important que nos auditeurs, nos lecteurs aussi voient la manière dont on travaille, les informations, les analyses que l'on peut produire ne sortent pas de nulle part, et évidemment tout ça s'appuie sur des méthodes qui sont éprouvées, qui sont modifiées aussi en fonction de leurs limites pour essayer de les améliorer. Alors on a parlé de la méthode dans cette première partie des missions, on va maintenant aborder dans cette seconde partie les premiers enseignements que l'on peut tirer de cette guerre en Ukraine. On a beaucoup parlé de guerre de haute intensité, de retour à la haute intensité. C'est une expression, Olivier Kempf, que vous n'aimez pas beaucoup, ou vous dites, en tout cas dans votre ouvrage, que ce n'est pas vraiment une guerre de haute intensité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point ?
Ou plus exactement, c'est une guerre de haute intensité, mais comme toutes les guerres de haute intensité. Et finalement, c'est pas la haute intensité qui caractérise cette guerre d'Ukraine proprement dite. C'est autre chose. Et pourquoi ? Parce que finalement, personne n'a jamais réellement défini ce qu'était la haute intensité, d'une part. C'est une expression qui dure depuis 3-4 ans, qui avait été lancée par des chefs d'état-major. Mais à l'époque, derrière ce durcissement des conflits qu'on avait observé, on va y revenir, il y avait aussi finalement un discours intérieur de programmation, de stratégie de moyens, comme on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce durcissement de la guerre, finalement, n'est pas spécifique à la guerre d'Ukraine. D'abord, quiconque, n'importe quel soldat qui a vécu une action de feu personnellement trouvera que c'est de la très haute intensité. Et donc, voilà. Et puis, si vous comparez le nombre de victimes, prenons la guerre du Yémen, par exemple, où on est à, je crois, 320 000 morts, 150 000 morts directs et 170 000 par famine. Voilà une guerre qui dure depuis 2015, dont tout le monde se fiche et qui a un bilan humain absolument effroyable. Je peux vous dire qu'au Yémen, c'est clairement, où ça l'a été, je veux dire, ça dépend des phases, bien évidemment, mais ça a été clairement de la haute intensité, même si les moyens engagés étaient peut-être pas forcément aussi extrêmes que ceux qu'on voit en Ukraine. Je vous rappelle le Rwanda, le génocide contemporain là de 94, où on a eu des centaines de milliers de victimes à coups de machette. Donc le nombre de victimes n'est pas forcément significatif. Le volume des forces employées, c'est un peu la même chose. Regardez la bataille de Mossoul, par exemple. Hein, je veux dire, tout le monde nous parle de Mariupol. La bataille de Mossoul a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y avait au moins 100 000 alliés, face à 10 000 soldats de l'État islamique qui étaient retranchés, et donc il y a eu bien évidemment une ville grandement détruite à l'issue, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les guerres urbaines, dans les combats urbains, avec nombre de victimes collatérales. Donc, si vous voulez qu'il puisse y avoir durcissement de la guerre, je veux bien, mais là encore, je crois que on s'illusionne et que les opérations extérieures que les Français et les Européens d'une façon générale ont connues au cours des 20 dernières années leur ont fait oublier ce qu'était vraiment la guerre. Parce qu'on faisait du maintien de la paix, etc., etc. Il y a eu quelques combats en Afghanistan qui étaient durs, mais qui étaient finalement assez limités. Et donc, on a un peu oublié cette dureté de la guerre. Mais finalement, la guerre est normalement dure. C'est la normalité de la guerre est d'être dure. Donc là, on a une guerre, oui. Ce qui la caractérise, c'est finalement, dans les images, elle nous renvoie à des choses que l'on a connues au XXe siècle, que ça soit les tranchées, bien évidemment, et cette guerre d'usure qui font penser immanquablement à la Première Guerre mondiale, que ça soit les moyens blindés mis en œuvre et qui font penser à la Deuxième Guerre mondiale. Donc bien évidemment, ça renvoie à cette image des guerres qui est dans nos inconscients collectifs à nous, Européens. Et donc, oui, elle renvoie à ça. Et en même temps, elle est exceptionnelle de deux façons. D'abord parce que je crois que c'est probablement la seule configuration contemporaine où on puisse voir autant de matériel mis sur le terrain. Au début de la guerre, les Ukrainiens avaient 2000 chars, les Russes en avaient 9000. Je dis pas qu'ils étaient tous en état de marche, etc., mais je veux dire, sur l'ordre de bataille, je parle pas des trucs qui étaient rangés en stock, hein, c'était ce qui était officiellement dans l'ordre de bataille, c'était 2000 chars contre 9000. Pour prendre un exemple, l'armée française a 220 chars, je crois, 240, enfin bon, un peu plus de 200. C'est-à-dire que l'armée française a 10 fois moins de chars que ce qu'avait l'armée ukrainienne au début de la guerre. Sur les canons, on est sur des chiffres là aussi tout à fait hallucinants. Je crois qu'il y avait 1500 canons plus 300 lance-roquettes côté ukrainien et 3 à 4 fois ce volume du côté russe. Regardez sur les Césars, les canons Césars qu'on a envoyés, on en a envoyé 12 sur les 78 que l'armée française détient. Donc vous avez un niveau d'échelle, une échelle, un volume, pardon, de matériel qui est absolument exceptionnel et qui est une des très rares configurations où deux pays sur une guerre interétatique d'ampleur peuvent s'affronter. Je veux dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir les Américains versus les Russes ou les Chinois. Mais vous voyez, il n'y a pas tellement de pays qui ont 2000 chars, quoi. Donc déjà, ce volume de moyens est exceptionnel. Et ça dépasse la notion de haute intensité, parce que la haute intensité, on la connaît ailleurs. Toute guerre est de haute intensité. Donc cette guerre est une guerre... Finalement, comment la caractériser? Elle est blindée, mécanisée, elle est industrielle, elle est exceptionnelle à cause de ce volume-là. Et donc, il faut pas trop surinterpréter justement cette masse parce que elle est, pour le coup, anormale. Elle n'est pas dans la norme des conflits que l'on rencontrera probablement aujourd'hui et que d'ailleurs on a conduit, que ça soit en Libye ou justement en Irak contre l'État islamique. Deuxième chose, malgré tous ces traits hérités du XXe siècle et des guerres du passé, c'est aussi une guerre qui est déjà pleinement du XXIe siècle, avec tout un tas de caractéristiques, l'usage finalement massif des deux côtés de mercenaires. Donc je renvoie au dernier numéro de Conflit qui me semble très pertinent sur ce sujet. Bravo Jean-Baptiste. sur le rôle finalement de ce qu'on appelle le multimilieu, multichamp, c'est-à-dire que c'est une guerre qui n'a pas seulement été dans le milieu terrestre, aérien et naval, mais qui a mobilisé d'autres champs, que ça soit l'espace sidéral, que ça soit le cyber, même si ça a été là pour le coup moins clair, que ça soit alors, de façon beaucoup plus nette l'électromagnétique, l'environnement électromagnétique, et puis bien évidemment, et on en a touché un mot, ce qu'on appelle les perceptions, l'environnement des perceptions, l'environnement humain. D'une formule peut-être un peu simpliste et que l'on pourra discuter, mais au moins compréhensible par tout le monde, de la guerre de l'information. On en a touché un mot. Et ça, on voit bien toutes ces dimensions sur les à côté de la guerre, sur une guerre finalement totale, intégrale, mais très moderne de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle est très ancienne parce que finalement on s'enterre dans les tranchées et on se tire dessus à coups de canon comme il y a 100 ans. Et en même temps, on fait tout un tas de choses qu'on n'aurait pas fait il y a 100 ans.
Alors, vous avez évoqué la question du cyber et le fait que ça a été peu utilisé. C'est justement un point sur lequel je voulais vous interroger parce que vous êtes un des grands spécialistes et connaisseurs du cyber auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. On s'attendait avant le début de la guerre en Ukraine à ce que les guerres du futur, les guerres du 21e siècle, ce soient des guerres de cyber, des guerres de robots. Et on a l'impression, quand on regarde cette guerre, que certes, il est bien présent, mais enfin qu'on retrouve les fondamentaux de la guerre, c'est-à-dire que une rivière, c'est une rivière et donc on peut pas la traverser ou avec difficulté, que il y a le printemps, l'été et l'hiver et que la saison joue sur la manière de faire la guerre, que on en revient à une guerre de chars, vous l'avez dit, les Russes en avaient beaucoup, une guerre d'artillerie aussi. Bref, la guerre comme on l'a toujours connue de César jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est que la technique a un peu évolué. Mais où en est le cyber justement et où en sont ces nouvelles technologies qui devaient en quelque sorte remplacer la guerre ou la changer de façon définitive?
Alors, vous m'avez lu, donc vous savez que j'ai toujours été réticent à l'expression cyberguerre, qui est celle de journalistes qui comprennent pas vraiment les choses. Que même chose, j'ai toujours été réticent vis-à-vis d'un discours souvent américain qui vous parlait de cyber Pearl Harbor, de cyber Armageddon. Ça fait effectivement quelques années que je travaille sur le sujet, on n'a pas vu et voilà. Alors sur la guerre en Ukraine, ce qui est intéressant dans le domaine cyber, mais au-delà, on va parler du multimilieu multichamp, mais prenons d'abord le cyber, c'est qu'effectivement apparemment on n'a pas vu grand-chose. Par exemple, sur le conflit en Géorgie en 2008, on avait vu des lignes d'opération cyber qui venaient en appui des lignes d'opération terrestre, par exemple. On avait pu le noter. Ça s'était un peu noté de façon quand même déjà beaucoup plus discrète sur les actions américaines, un peu en Afghanistan, un peu en Irak-Syrie. Mais on avait peu de choses. Et là, finalement, pour la guerre d'Ukraine, on a l'impression de rien voir. Qui ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Et ce qu'on a vu, ce sont plutôt des initiatives privées de pirates, de hackers qui prenaient de même l'initiative d'aller d'effacer tel site du ministère russe de la défense, des choses comme ça. Donc pas forcément inutile, mais voilà. De la même façon, on parle beaucoup de volume. L'Ukraine a publié la semaine dernière un communiqué en disant qu'il avait subi 1400 cyberattaques. Le seul problème, c'est que nous, les spécialistes, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une cyberattaque. C'est-à-dire que une sorte d'interrogation un peu hostile, un peu curieuse d'un serveur, qui est juste finalement un micro-incident, peut être classé comme une attaque. Et donc la question, c'est pas le volume, parce que la question, c'est celle de la qualité et des dégâts. Notons que les Ukrainiens, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont en but finalement des agressions russes en la matière, et que et voilà le point auquel je veux en venir. Finalement, ces nouveaux domaines de la conflictualité sont des domaines intangibles, invisibles, sous le seuil finalement de perception. C'est évident pour le sidéral, enfin pour le spatial sidéral, c'est évident pour le cyber, c'est évident pour l'électromagnétique. Voici donc des domaines techniques qui agissent, qui ont des effets sur le terrain, croyez-moi, et qui ont des effets dans la conduite de la guerre, mais qui ne sont pas visibles. Et alors la disparité avec ce qu'on voit du reste, et c'est la première partie de notre conversation, justement sur... on voit tout aujourd'hui avec le réseau, l'OSINT, avec finalement les chaînes d'information continue et Twitter. Eh bien, vous êtes au courant dans la journée de la moindre modification de front, parce que ça se voit, ça se dit, ça se transmet. C'est pas du tout le cas dans ces autres domaines du cyber, de l'espace, de l'électromagnétique, etc. Et finalement, j'en viens à penser que c'est peut-être ça la vraie évolution cyberstratégique, c'est-à-dire que les parties en présence, les belligérants, les acteurs, parce qu'il n'y a pas que les deux belligérants, il y a aussi leurs parrains ou leurs alliés, agissent sous le seuil de perception et finalement instrumentalisent le fait que ce combat-là se fait sous le seuil de perception. Alors, c'est très désagréable pour des observateurs comme vous et comme moi qui essayons de comprendre, parce que voilà tout un domaine où il se passe des choses et nous ne pouvons pas les voir, et seuls les spécialistes peuvent les voir. C'est désagréable pour nous, mais ça veut pas. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça ne se passe pas. Et à l'inverse, le dernier environnement, le dernier champ est celui des perceptions. Celui dont on parlait, qui est celui de la communication stratégique. Et alors là, pour le coup, que de nouveautés. On n'est plus dans la propagande de papa, on n'est plus dans la censure directe des journaux de 14-18 ou de 39-45. Voici des manœuvres informationnelles des uns et des autres qui vont cibler des publics différents. C'est beaucoup plus, c'est à la fois plus massif, mais aussi plus raffiné, plus segmenté, parce que un message peut viser plusieurs cibles, donc il doit être élaboré pour atteindre des objectifs différents auprès de cibles différentes, d'audiences différentes, ou alors vous allez avoir trois messages spécifiques à destination de trois cibles, mais la cible A peut entendre le message destiné à la cible B et ne pas le comprendre parce que finalement ça lui est pas destiné, et donc vous allez avoir ces effets-là. Alors tout ça est très très intéressant, et là pour le coup c'est très très visible, et donc finalement, par rapport au combat terre-air-mer d'avant, les nouvelles dimensions de la guerre sont pour partie en dessous du seuil de visibilité, et pour l'autre partie, justement, agissent totalement et pleinement dans ce seuil, au-dessus de ce seuil de visibilité. Et donc, c'est apparemment contradictoire, mais c'est finalement très cohérent.
Alors Olivier Kemp, oui, Olivier Kemp, quels sont les enseignements principaux, à votre avis, de cette guerre en Ukraine? On parle de guerre du 21e siècle. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Et je pense notamment à l'armée française. On a glosé, on s'est interrogé en disant, mais est-ce que la France pourrait soutenir une telle guerre? Et vous l'avez dit, d'un point de vue du volume de l'armement, on est très inférieur. Mais quels est pour vous les éléments qui se dégagent, et est-ce que l'armée française doit retenir de cette guerre, en prévision évidemment de nouvelles guerres à venir?
Alors, oui, je pense qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre de choses d'enseignements Alors comme toujours, les enseignements ils sont partiels. Je reviens sur la notion d'histoire immédiate. Les vrais enseignements, on les aura quand la guerre sera terminée, mais ça sera dans quelques mois, quelques années, et ça sera peut-être trop tard par rapport à l'action que l'on doit. Donc on doit prendre des décisions finalement en état de connaissance limitée. Bien voilà, je veux dire c'est finalement quelque chose de tout à fait normal. Et donc en termes de méthode. Pour la France, il est peu probable que l'armée française combatte à ses frontières. On va dire les choses simplement. Et donc, pour la France, le combat se fera forcément à distance des frontières, donc avec des systèmes de projection. Alors, c'est ça qui est intéressant avec la mission Aigle, le bataillon que l'on a déployé en Roumanie. Ben voilà, la Roumanie, c'est à 2500 km, on a rencontré des difficultés de transfert logistique, etc. Tout ça pour vous dire que finalement, le système de projection, que ça soit avec des moyens lourds ou avec des moyens plus légers, eh bien le système de projection perdurera et que donc cette logistique de théâtre, cette logistique stratégique demeurera et qu'il ne faut pas oublier tous ces aspects-là, que nous allions en Afrique, au Moyen-Orient, sur les bords de la mer Noire ou ailleurs. De toute façon, on combattra probablement le plus probablement au loin. Première chose. Ce qui veut dire que si c'est au loin, ça entraîne un train logistique qui est pas facile et donc se pose la question effectivement des trains logistiques, du poids logistique qui peuvent être aussi bien qui peuvent être de deux sortes, qui peuvent être celui des munitions. Je rappelle que Napoléon a inventé l'arme du train justement pour organiser les trains d'artillerie qui étaient tous ces fardiers de munitions qui allaient approvisionner les canons, et on voit bien la question munitionnaire justement dans cette guerre d'Ukraine. Donc là on n'est même pas en retour à 14-18, on est retour à Napoléon, à Iéna. Plus sérieusement, donc poids logistique aussi bien sur le niveau des munitions que sur le niveau de ce qu'on appelle la maintenance des pièces détachées, parce que les matériels modernes ça s'entretient et ça nécessite un flux logistique. Et donc on doit trouver un bon équilibre finalement entre l'efficacité de nos matériels, leur dureté au combat et en même temps leur légèreté logistique. Vous voyez que voici une équation avec trois paramètres qui d'emblée sont un peu contradictoires. Sont apparemment contradictoires. Deuxième chose, low-tech versus high-tech. Nous avons pris, nous autres occidentaux et nous autres français tout spécialement, une voie technologique, donc de matériel performant, capable de faire tout un tas de choses. Qui entraîne d'abord des questions de formation, et donc qui dit haute technologie dit qualité des hommes qui les servent, et c'est pour ça, je veux dire, certains disent il faut augmenter, faut acheter plus de, je sais pas moi, de canons, de chars. Oui, peut-être. Le seul problème, c'est que si vous achetez plus de canons, il va falloir recruter plus d'hommes pour servir ces canons. Et avec notre armée professionnelle, on n'est pas du tout sûr de pouvoir recruter. L'armée française est la seule armée européenne et occidentale qui réussit à recruter les soldats dont elle a besoin. Je veux dire, partout ailleurs, les Anglais, les Américains, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des enseignements de la guerre d'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est les Ukrainiens qui nous le donnent. En 2014, eh ben, ils se font battre par les Russes dans le Donbass, hein, disons les choses simplement, 2014-2015. Et alors qu'ils étaient en train de se professionnaliser en écoutant les Américains, ils disent, bah non, finalement, on va conserver la conscription. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2022, ils gagnent. Enfin, ils ont gagné la première partie de la guerre, les premières batailles, grâce à toutes leurs brigades territoriales. Qui ont tenu le choc, et grâce à leur service militaire. Et regardez ce qui se passe en Suède, regardez finalement la question du service militaire devient une option pas si absurde après 30 ans de professionnalisation. Je dis pas que la France doit revenir au service militaire, mais la question des réserves, la question du volontariat se pose certainement aussi en termes humains. C'est-à-dire que il faut pas seulement penser au matériel, il faut aussi penser aux termes humains.
Merci Olivier Kempf pour ces précisions. Alors malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. On aurait pu continuer encore très longtemps en discuter, mais on aura l'occasion d'y revenir. Puisque vous l'avez dit, cette guerre est longue et n'est pas prête de se terminer. Je rappelle donc votre ouvrage qui est paru aux éditions Economica, Guerre d'Ukraine, tout simplement, qui est à la fois une analyse et une reprise de vos différentes enfilades sur Twitter depuis le mois de mars. Et puis je renvoie à votre compte Twitter EGA et également à vos autres ouvrages. Toutes ces références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.